France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Le régime iranien crie vengeance. Un message du nouveau guide suprême appelle à continuer le blocage du détroit d'Ormuz, sauf pour les navires de certains pays amis de l'Iran. Aux États-Unis, les services de renseignement sont aujourd'hui convaincus que le régime des mollahs n'est pas prêt de tomber. En France, les distributeurs de carburant s'engagent à baisser leurs prix. C'est ce qu'affirme le ministère de l'Économie. En réalité, ils sont complètement tributaires du marché mondial du pétrole, qui repart à la hausse cet après-midi. Boualem Sansal quitte Gallimard, son éditeur historique depuis 27 ans. L'écrivain franco-algérien pourrait rejoindre Hachette, le groupe détenu aujourd'hui par Vincent Bolloré. À 18h15, maire pourquoi faire, dernier épisode de notre rendez-vous consacré aux élections municipales. On s'intéresse ce soir au tissu associatif communal, menacé par les coupes budgétaires de l'État. Estelle Caméraire s'est rendue à Rostrenin en Bretagne. Au 13e jour de l'offensive israélo-américaine, le régime iranien bouge encore et il s'exprime pour promettre la vengeance. Il s'agit en l'occurrence d'un message du nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui vient de succéder à son père Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre. Un message lu par une présentatrice de la télévision d'État. Mojtaba Khamenei a été lui-même blessé dans une frappe et il n'est toujours pas apparu publiquement depuis sa désignation. En attendant une preuve de vie, la détermination du régime des mollahs est totale. Au moins dans le discours, Marie-Pierre Véro.
Il promet la vengeance jusqu'au bout. Venger le sang des Iraniens tués lors de la guerre, notamment dans la frappe contre une école qui a tué plus d'une centaine d'écolières. Mojtaba Khamenei prévient que cette guerre va continuer et qu'elle va s'étendre. Il la veut coûteuse pour l'économie américaine et mondiale. Il sait que c'est un point faible de Donald Trump. Le détroit d'Ormuz va rester fermé, dit le guide suprême. Les gardiens de la révolution ont immédiatement confirmé qu'ils ne lâcheraient pas leur contrôle sur cet axe stratégique. Les attaques contre les navires, les mines, le passage d'un cinquième du pétrole mondial est entre leurs mains et le baril flambe de nouveau. La guerre aussi contre les bases américaines dans la région. Mojtaba Khamenei précise aux pays du Golfe qu'il reste des pays amis, mais que si les bases américaines qu'ils abritent ne ferment pas, elles seront frappées. Il annonce encore l'ouverture d'autres fronts où l'ennemi est vulnérable. On peut songer aux intérêts américains dans la tech, aux banques américaines ou encore aux ports. Dernier point à retenir, ces remerciements adressés à l'axe de la résistance, ces supplétifs dans la région, les Houthis au Yémen, les milices irakiennes ou encore le Hezbollah libanais, Hezbollah qui a justement coordonné avec l'Iran ses dernières frappes contre Israël.
Marie-Pierre Véro, correspondante régionale en Turquie, signe de la détermination iranienne. Au moins 3 navires ont été attaqués aujourd'hui dans le golfe Persique et des explosions ont touché un réservoir d'hydrocarbures à Bahreïn et un immense champ pétrolier en Arabie Saoudite. Conséquence immédiate, le cours du pétrole s'envole à nouveau. Le baril de Brent est repassé au-dessus des $100. Mais cette flambée des cours n'est plus une priorité pour Donald Trump. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'empêcher un empire du mal, l'Iran, de se doter d'armes nucléaires. Voilà ce qu'écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Donald Trump, qui a certainement pris connaissance des derniers rapports de ses services de renseignement, selon l'agence Reuters, ces rapports disent tous la même chose. Le régime des mollahs n'est pas prêt de tomber, Franck Madvon.
Les conclusions des services de renseignement américains démentent le récit de l'administration Trump. Non, les dirigeants iraniens n'ont pas presque tous été tués, comme l'affirme le président. Il y a certes des victimes, mais d'après une source officielle citée par Reuters, le régime n'est pas en danger, il garde le contrôle du pays et des institutions. Le pouvoir est entre les mains des gardiens de la révolution et des hommes qui ont remplacé les responsables tués, à commencer par Mojtaba Khamenei, successeur de son père en tant que guide suprême. D'après Reuters, Israël reconnaît aussi que la chute du régime à Téhéran est improbable à ce stade. Selon les renseignements américains, seules des troupes au sol pourraient changer la donne en permettant à la population de se soulever sans craindre la répression. Washington ne l'envisage pas sérieusement et la piste des Kurdes d'Iran est jugée trop incertaine. En attendant de nouvelles évolutions sur le terrain, le projet d'un changement de régime en Iran, mis en avant par Donald Trump au début de la guerre, a disparu du discours officiel américain.
Franck Madvon, correspondant à Washington. Washington, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Il y a aujourd'hui en Iran 3,2 millions de personnes déplacées par la guerre. Cela représente environ 1 million de foyers iraniens. La plupart de ces familles fuient Téhéran, la capitale, cible principale des frappes israélo-américaines. En France, pour tenter de limiter la flambée des prix à la pompe, le ministère de l'économie a réuni ce matin les distributeurs de carburant. Et selon Bercy, ils se sont engagés à baisser significativement leurs prix. Bonsoir Lou Momège.
Bonsoir.
Il convient de relativiser cet optimisme du ministère. Il n'y a pour l'instant aucune garantie sur cette baisse.
Oui, ce n'est pas le gouvernement qui encadrera les prix, mais bien les distributeurs eux-mêmes. Ils n'avaient d'ailleurs pas attendu cette réunion pour prendre des initiatives. Plusieurs grands distributeurs ont annoncé plafonner le prix de leur carburant ou encore une baisse de plusieurs dizaines de centimes. De belles paroles pour Francis Pousse. Lui représente les stations-service hors grande surface. Francis Pousse qui assure que les distributeurs ont beau promettre des efforts, ils restent dépendants du marché du pétrole.
Alors on jouera évidemment le jeu parce qu'on est dans un marché très concurrentiel à partir du moment où le produit fini baissera, ce qui n'est malheureusement pas le cas. On a vu une légère baisse sur hier. Malheureusement, ce matin, les cours sont à nouveau à la hausse, puisque je rappelle que hors le coût du baril, qui malheureusement est aussi à la hausse, c'est le coût du produit fini à Rotterdam qui détermine les prix en station-service. Et ce coût du produit fini a aussi bien augmenté hier.
Alors c'est la deuxième réunion en 10 jours qu'organise Bercy sur le sujet, avec cette fois plus d'acteurs autour de la table, mais très peu daignent communiquer. Depuis le début de cette crise, Total Energy reste quasi muet. Pourtant, l'entreprise représente un quart de la vente de carburant en France. Une part significative de sa production est aussi établie au Moyen-Orient. De leur côté, les raffineurs, qui ont doublé leur marge sur leur gazole, assurent être aussi complètement dépendants du marché pétrolier. Mais la communication du ministère de l'économie reste centrée autour des distributeurs. Bercy annonce d'ailleurs poursuivre les contrôles de prix dans les stations-service. Entre lundi et mercredi, plus de 600 établissements ont été inspectés. Seuls 5% sanctionnés pour des questions d'affichage de prix.
Explication signée Lou Momège. Les années Gallimard, c'est terminé pour Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien quitte son éditeur historique depuis le serment des barbares en 1999. Il l'a annoncé au PDG Antoine Gallimard qui a réagi avec tristesse et déception. Gallimard qui s'était mobilisé avec le monde de l'édition pour obtenir en novembre dernier la libération de l'écrivain, alors incarcéré en Algérie. Depuis, Boualem Sansal a été élu à l'Académie française. Bonsoir Pierre Robert.
Bonsoir.
Boualem Sansal veut confier la publication de son prochain ouvrage à Hachette Livre, groupe contrôlé par Vivendi, lui-même dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.
Oui, et c'est un départ d'autant plus remarqué que Boualem Sansal prépare actuellement son tout premier livre depuis sa libération, après près d'un an d'incarcération en Algérie. Alors évidemment, c'est un choc pour le monde de l'édition, particulièrement pour Antoine Gallimard, qui s'était investi personnellement dans la libération de l'écrivain. Le récit très attendu de la détention de Boualem Sansal, libéré en novembre dernier, sera donc publié sous une nouvelle bannière, celle des éditions Grasset, dirigée par Olivier Nora. Il s'agit d'une filiale du groupe Hachette, premier éditeur français contrôlé par le milliardaire réactionnaire Vincent Bolloré. Mais alors, qu'est-ce qui s'est joué ici? Eh bien, il est possible que les raisons du départ de Boualem Sansal soient d'ordre financier. Hachette aurait mené un intense démarchage commercial. Une première rencontre avait même été encouragée par Nicolas Sarkozy. Selon le Canard Enchaîné, l'ancien président lui avait ainsi vanté, devant les représentants de Gallimard, les conditions de rémunération avantageuses du groupe Bolloré. Mais ce rapprochement avec le groupe Bolloré pourrait aussi être dû aux engagements de l'auteur qui concédait dans un entretien au Monde en novembre dernier avoir l'obsession de l'islamisme qu'il considère comme un danger suprême. Boualem Sansal a par ailleurs collaboré avec des médias d'extrême droite comme Valeurs Actuaires ou Boulevard Voltaire. Ce transfert de Gallimard vers Grasset montre surtout l'influence grandissante de l'Empire Bolloré sur le monde de l'édition. Demain, les éditions Hachette fêteront leurs 200 ans, l'occasion pour le groupe d'annoncer officiellement sa toute dernière prise.
Pierre Robert, merci. C'est l'un des enjeux des élections municipales. À 3 jours du premier tour, dimanche, les écologistes vont-ils finalement limiter les dégâts? Alors que les premiers sondages annonçaient un reflux de la vague verte de 2020, ils avaient alors conquis plusieurs grandes villes, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Besançon notamment. Rosalie Lafarge, selon les dernières enquêtes d'opinion, les écologistes pourraient malgré tout conserver quelques-unes de leurs prises.
La patronne des écologistes y croit, il y a une remontada. Marine Tondelier regarde de près ces écarts qui se resserrent dans certains sondages à Lyon, à Strasbourg. Même si ça s'annonce très compliqué pour les sortants, ils grappillent des points dans les dernières enquêtes. À Bordeaux, ça reste tendu, mais à Poitiers, Tours ou Besançon, les projections sont jugées plutôt rassurantes. Et puis, il y a d'autres espoirs de conquête verte. Lorient, en Bretagne, Fécamp, en Normandie, Nevers, dans la Nièvre, Villepinte, près de Paris, ou Mulhouse, en Alsace. Tout va dépendre des dynamiques du premier tour, puis des alliances en vue du second. Les rapprochements éventuels avec les Insoumis font débat au sein du parti, mais on a mené ces municipales avec sérieux. À la fin, on n'aura jamais eu autant d'élus écologistes, prédit déjà Marine Tondelier. Pour autant, le parti reste en difficulté pour ce scrutin. 30% des électeurs regrettent leur vote de 2020 dans les villes dirigées par les écologistes. C'est plus du double de la moyenne nationale, selon une enquête IFOP pour l'Institut Terram, qui prévoit une prime au sortant beaucoup plus faible pour ces maires que pour les autres. Plusieurs études pointent par ailleurs un recul des thématiques écologistes dans un contexte dominé par les préoccupations sécuritaires et socio-économiques. Mais ça ne vient pas pour autant accréditer la thèse d'un reflux de l'écologie politique, insiste le chercheur Antoine Bristiel. Il l'assure, l'échelon municipal continue d'être perçu comme un niveau d'action central pour l'adaptation aux transformations environnementales. Et près de trois quarts des Français affirment que les propositions en la matière des candidats auront une place importante dans le choix de leur vote.
Rosalie Lafarge, merci. Réservez votre soirée dimanche. France Culture vous propose une émission spéciale consacrée au premier tour des municipales. Résultats, réactions, analyses et commentaires. La soirée débute à 19h30 jusqu'à 23h et l'on reparle de ces élections municipales après ce journal avec notre rendez-vous Maire Pourquoi Faire. Le tribunal judiciaire de Paris a rendu aujourd'hui un jugement inédit contre une entreprise française. Il a condamné le groupe Rocher, maison mère des cosmétiques Yves Rocher, à indemniser d'anciennes salariées de l'une de ses filiales en Turquie. Pourquoi ? Parce que le devoir de vigilance n'a pas été respecté. Il s'agit pourtant d'une obligation légale pour les multinationales depuis 2017, Catherine Pétillon.
C'est la première condamnation d'une entreprise en France pour manquement au devoir de vigilance. Dans le cas présent, l'affaire remonte à 2018 et au licenciement de 130 salariés dans une ex-filiale turque. 81 des salariés concernés ont poursuivi le groupe Rocher, s'estimant victimes d'atteintes graves à leurs droits syndicaux. Le tribunal leur a donné raison et a jugé qu'il était suffisamment établi que la prise en compte du risque d'une atteinte grave à la liberté syndicale que les laboratoires Yves Rocher connaissaient aurait permis d'éviter le préjudice subi par les salariés licenciés. Le tribunal a condamné la société mère, le groupe Rocher, à verser au total 8 000 euros de dommages et intérêts à ses salariés, 40 000 euros au syndicat turc et 1 euro symbolique aux deux associations requérantes, ActionAid et Sherpa. La décision est assortie de l'exécution provisoire. Le groupe Rocher a dit prendre acte du jugement et n'a pas encore décidé s'il ferait appel ou non. Les organisations requérantes, elles, parlent d'une victoire en demi-teinte car seules 9 demandes d'indemnisation ont été jugées recevables. Raison invoquée, tous les autres avaient signé un protocole d'indemnisation avec l'entreprise turque après leur licenciement.
Ce chiffre inquiétant à présent, près d'un million de véhicules circulent avec une immatriculation frauduleuse actuellement en France. C'est la Cour des comptes qui l'affirme dans un rapport publié aujourd'hui. À l'origine de ces fraudes massives, l'externalisation des démarches pour obtenir une carte grise. Depuis 2017, tout se passe en ligne et des opérateurs privés ont remplacé les fonctionnaires des préfectures. La Cour des comptes pointe les dérives du système avec un manque à gagner estimé à plus de 550 millions d'euros entre 2022 et 2024. Bonsoir Émilie Tran.
Bonsoir.
La Cour des comptes qui appelle l'État à une reprise en main urgente du dispositif.
En changeant de procédure en 2017, le ministère de l'Intérieur a souhaité simplifier et accélérer les démarches. Problème, au fil des années, plus d'une trentaine de méthodes de fraude se sont développées. Parmi elles, la Cour des comptes insiste notamment sur le phénomène des garages fantômes. Selon le rapport, près de 300 sociétés fictives ont été créées, des sociétés qui peuvent enregistrer des véhicules sans les immatriculer et donc sans payer la taxe associée. Le client s'en charge normalement à l'achat. Or, avec ce procédé, les véhicules restent éternellement enregistrés au nom du garage fictif, qui monnaie ses cartes grises en ligne. Une combine qui permet aux propriétaires de circuler dans un anonymat total. Ils peuvent ainsi commettre des infractions routières en toute impunité. Le ministère de l'Intérieur a décidé de prendre les choses en main. Un plan de lutte contre la fraude a été mis en place en mai dernier. Il prévoit entre autres de renforcer le contrôle de ces sociétés. Depuis début janvier également, les véhicules en attente de carte grise définitive portent une plaque d'immatriculation rose et non plus blanche. La police peut donc plus facilement les reconnaître, les contrôler et identifier ce qui relève d'un garage fantôme.
Émilie Tran, merci. Le temps demain, de nouvelles pluies arrivent sur le quart nord-ouest en cours de matinée. La perturbation s'étendra ensuite de l'Aquitaine aux Ardennes. Ailleurs, un ciel mitigé entre nuages et éclaircies. Demain matin, faible gelée en Auvergne et au pied des Alpes. Sur les autres régions, il fera entre 1 et 9 degrés. Les températures maximales iront de 10 à 20 degrés du nord au sud.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Maire, pourquoi faire ? Notre ultime rendez-vous consacré aux élections municipales avant le premier tour dimanche. Une question pour ce dernier épisode. Comment développer et maintenir le tissu associatif communal, en particulier dans les milieux ruraux ? Illustration à Rostrenin, dans les Côtes d'Armor. Cette commune de 3500 habitants du centre-Bretagne compte plus de 100 structures associatives. Estelle Caméraire, vous vous êtes rendue sur place.
On retrouve une partie de ces associations au pôle culturel, une grande maison de plusieurs étages, proche du centre-ville et louée par la mairie. Au rez-de-chaussée s'est installée la fameuse radio RKB pour Cresbraise et à l'étage, plusieurs bureaux.
Bonjour.
Dont celui de l'association de promotion de la langue bretonne, RAOC, et celui de Flory.
Depuis un an, on s'amuse à développer à Rostrenin une association qui s'appelle Jardin Biscoul. Biscoul, c'est du breton, ça veut dire chenille. Et là, je travaille pendant 3 mois avec RAOC pour développer des initiations au breton dans les écoles autour de la thématique légumes.
Arrivée de Lyon il y a 3 ans avec son compagnon, Flory ne connaissait personne dans la ville ou la région. C'est en s'engageant qu'elle a pu tisser des liens, personnels comme professionnels, dans cette grande maison partagée où toutes les associations montent des projets en commun autour d'un café ou d'un repas le midi, mais aussi grâce au soutien de la mairie.
Dès qu'on crée une association à Rostrenin qui a une utilité publique, voilà, on a le droit à 100 euros pour donner un coup de boost, ne serait-ce que pour payer l'assurance. Et on a aussi une structure, le Guide Asso. Ils organisent des ateliers, par exemple, autour des subventions, de la comptabilité associative. Et ils ont dit que c'était le maire qui les avait invités à venir tenir une permanence tous les mardis à Rostrenin. Et c'est gratuit, du coup, pour les associations. Après, quand on est dedans, et qu'on se rend compte de tout ce qu'il y a, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire, quoi, tellement les propositions sont riches.
Et difficile de s'ennuyer avec les plus de 100 associations de la commune. Une chance pour les habitants et pour la mairie.
Je m'appelle Guillaume Robic. Je suis maire de la commune de Rostrenin, dans les Côtes d'Armor, sur le territoire du Cresbraise.
Élu depuis 2020, Guillaume Robic porte la liste sans étiquette « Faire vivre Rostrenin ». Le maire sortant voit réellement les associations comme des partenaires de la politique locale. Le défi est de partager équitablement les subventions.
Sur l'ensemble de ce mandat, on a maintenu et augmenté même certaines subventions. Pas simplement parce qu'on trouve que les personnes sont sympathiques, mais parce qu'on considère que l'action associative est une partie de ce que nous, on doit faire pour que cette ville, cette commune et le territoire aillent mieux. Donc ce qu'on regarde dans une subvention, c'est d'abord les retombées sur la vie quotidienne des personnes. Une association qui n'est là que pour fonctionner par elle-même, pour elle-même et pour ses adhérentes et adhérents, va être un petit peu moins accompagnée qu'une association qui œuvre pour l'intérêt général, le bien commun, qui s'engage sur des fêtes ou des moments culturels, par exemple, qui vont être très ouverts. On a vraiment ce regard-là. Un euro qui va aller dans le domaine associatif doit in fine arriver sur l'intérêt général de la population.
Depuis 2024, la commune de Rostrenin réserve environ 2% de son budget de fonctionnement aux associations, soit près de 200 000 euros.
À l'échelle de la région, les budgets culture, sport, langue ont été préservés, maintenus, donc protégés pour l'instant de baisses trop importantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on doit assumer, nous, dans les collectivités locales, des baisses qui nous sont imposées par l'État dans une gestion plus erratique. Quand on a à les assumer, on essaye d'abord de ne pas aller sur les structures associatives qui en ont le plus besoin, c'est une évidence. Aujourd'hui, pour le moment, à Rostrenin et sur le territoire du Cresbraise, ce fait-là de réduction drastique n'est pas actif.
Rostrenin est aussi une terre de bénévoles.
Je suis né ici il y a maintenant 43 ans, un peu plus bientôt. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai reçu de la génération précédente, c'est le fait que quand on veut habiter ici, sur un territoire centre-breton qui est hyper rural, on a un petit morceau de sa vie à donner aux autres.
La mairie a créé des commissions extra-municipales, des instances de réflexion avec les citoyens et les citoyennes, attachées seulement à la question du bénévolat.
Qui nous ont permis aussi de relancer un comité des fêtes, qui était en sommeil depuis de très nombreuses années, parce que les associations génériques, c'est-à-dire celles qui ont un objet très large et vraiment qui travaillent au vivre ensemble et à l'intérêt général, ont plus de difficultés à trouver des gens qui sont fortement investis sur ces thématiques-là. Donc on a été à cet endroit-là pour réussir à faire renaître un petit peu ce comité des fêtes, qui s'appelle maintenant un comité communal animation et événements. Et donc je m'occupe aussi de cette thématique-là au niveau de la CCKB, donc la communauté de communes du Crazy Race. Et on mène depuis maintenant 3 ans un diagnostic action sur les besoins de mutualisation et de coordination des associations.
Un engagement que souhaite conserver Nicolas Le Caroff, candidat de la liste d'opposition, tous pour Ostrenin.
C'est vraiment une chance pour Ostrenin et pour le Crazy Race d'avoir un tissu associatif et autant de bénévoles. Ça veut dire que les habitants du Centre-Bretagne donnent de leur temps de façon désintéressée à une époque où parfois on déplore un peu une société individualiste. Alors on a vraiment le contre-exemple chez nous et puis ça, on peut que s'en réjouir.
Si le conseiller national Les Républicains accède à la mairie, le vrai défi du mandat, selon lui, sera de continuer à bien accompagner toutes ces associations et d'arbitrer correctement les demandes de subventions.
Le reportage à Rostrenin d'Estelle Camerère. Alors, on l'a bien compris, le tissu associatif et l'engagement bénévole sont un peu dans l'ADN de ce territoire breton, mais difficile de conserver cet engagement face aux baisses des subventions de l'État. C'est ce que nous explique Thierry Abaléa, président du mouvement associatif de Bretagne. Vous l'avez rencontré, Estelle Camerère.
Comme partout en France, et on l'avait montré lors de notre mobilisation assez massive le 11 octobre dernier, qui est que ça ne tient plus. Et donc, effectivement, ça ne tient toujours pas plus. Et là, il y a de grosses inquiétudes. Il y avait déjà de grosses inquiétudes en 2025 avec un certain nombre de mesures que le monde associatif avait été obligé de prendre en termes de réduction d'activité, mais aussi pour celles qui sont employeuses, de réduction d'emploi. Un certain découragement de la part des bénévoles d'associations parce que les contraintes budgétaires ne font que s'accentuer et beaucoup d'inquiétudes en 2026. Donc on sort à peine là de l'adoption d'un budget avec le 49.3 et donc beaucoup d'incertitudes encore sur le sort réservé aux associations par les collectivités territoriales puisqu'on a une double peine. C'est une baisse des subventions de l'État et une baisse des dotations aux collectivités qui provoque une baisse des aides des collectivités territoriales au monde associatif. Donc voilà, pris dans une espèce de d'étau qui interroge beaucoup le monde associatif, sur certaines sur leur vie, leur existence, mais la majorité et toutes les associations, sur leur capacité à maintenir les activités qu'elles mettent en œuvre. Aucun secteur n'échappe à cette incertitude.
Et combien d'emplois sont touchés ?
Combien d'emplois associatifs en Bretagne ? Plus de 100 000. C'est plus important que l'agroalimentaire, l'emploi associatif en Bretagne. Plus important que le tourisme. Et pour autant, il n'y a que 10% des associations en Bretagne comme ailleurs qui ont des salariés et qui créent de l'emploi. 90% des associations sont des associations qui ne vivent que sur l'engagement bénévole sans emploi. Donc c'est un vrai paradoxe. Et l'autre réalité maintenant de cet emploi-là, c'est que on a effectivement quelques poids lourds de l'emploi associatif. On pense très vite notamment au secteur du médico-social. On a énormément tout un maillage d'emplois associatifs, de petites associations, de moins de 3 salariés. C'est dans ces associations-là et aussi dans les associations plus importantes que les dégâts pour l'emploi sont importants. Et donc on a les seuls éléments que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est les mesures de licenciement ou les plans de sauvegarde et les plans sociaux qui sont à l'œuvre. Et on estime qu'en Bretagne, c'est quasiment 10% des emplois associatifs qui sont aujourd'hui menacés, soit dans leur évolution, soit dans leur existence même.
Et est-ce que le territoire breton est un peu une exception en France au niveau associatif ?
Plutôt qu'une exception, je dirais qu'il y a des singularités bretonnes. Avec le Conseil régional, on a réalisé une étude avec Recherche et Solidarité sur justement le tissu associatif. Parce qu'on avait un certain nombre d'intuitions qui étaient de nous faire dire que l'engagement associatif n'était pas pareil en Bretagne qu'ailleurs. Mais c'était intuitif. Et là, on a des éléments, effectivement. En Bretagne, il y a plus de bénévoles associatifs qu'ailleurs, proportionnellement à la population. Il y a plus de jeunes engagés en Bretagne qu'ailleurs. Et les femmes sont plus représentées dans les responsabilités associatives, et pas que sur les fonctions de trésorière, mais aussi en responsabilité associative qu'ailleurs en France. Donc on a un certain nombre de signaux et d'indicateurs où on est plutôt bon élève. Moi, je suis assez tenté de penser qu'une des raisons, parmi d'autres, de cet engagement-là, c'est d'abord ce sentiment d'appartenance à une culture et une identité particulière en Bretagne. Soit breton ou qu'on soit résident en Bretagne, On a un attachement à notre territoire qui est important. On a aussi un certain nombre de secteurs d'activité qu'on trouve en Bretagne et qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres régions autour de cette question de la culture bretonne, de la langue bretonne. Ça crée des occasions d'engagement.
Oui, il y a un esprit de communauté en Bretagne qui est très fort.
Oui, je sais pas, voilà. Après, il faut se méfier des mots, mais en tout cas, il y a une sensibilité culturelle et une culture du faire ensemble, du sentiment aussi que notre avenir nous appartient et nous avons la responsabilité de cet avenir et de la transmission de notre avenir. Je pense que c'est une caractéristique de la culture bretonne.
Thierry Abaléa, président du mouvement associatif de Bretagne. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre série Mère, pourquoi faire sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.